Mais voilà, c'est presque le moment de la conclusion, mais on a choisi finalement pour terminer sur ce séminaire un peu prospectiviste et en même temps actuel, l'actualité du numérique, de donner la parole à un historien, Milad Douéhi, qui est là et qui a écrit, vous ne l'avez peut-être pas tous lu, mais je vous conseille d'acheter ses livres, il vient d'en republier un autre. Un livre sur la grande conversion numérique. Alors, est-ce que le numérique est une religion? Parce que conversion numérique, devenons tous. Est-ce que voilà, c'est une question que je me pose. Est-ce qu'on est entré en religion et est-ce que nous sommes des évangélistes du numérique? Cher ami, à toi de nous dire ce que tu en penses.
Merci, merci. Je ne sais pas si le numérique est une religion. J'avais utilisé à l'époque le mot conversion, mais en rappelant quand même qu'en grec, épistrophé avait un sens géométrique avant de signifier la conversion dans le sens religieux.
Une conversion dans la maïeutique également,
oui,
la conversion
sûr.
Du fœtus.
Il y a toujours, c'était toujours lié aux sciences, et effectivement, en informatique, on parle de conversion sans cesse, d'un format à un autre, ainsi de suite. Mais voilà, c'était juste... Mais en tout cas, je vous remercie, je sais que le temps nous presse, je vais... D'accord, merci. Alors, évidemment, moi, je ne suis pas impliqué immédiatement, directement dans la pédagogie et surtout dans la construction de pédagogique, mais ça m'intéresse puisque j'ai travaillé depuis longtemps et je continue à travailler sur les dimensions qualitatives de la compétence numérique. Et c'est pour moi un enjeu tout à fait important et essentiel de cette mutation qui est induite par ce qu'on appelle numérique. Mais en écoutant aujourd'hui les discours, je suis frappé quand même par quelque chose. Il y a un flottement, une forme d'ambiguïté qui reste dans notre vocabulaire quand même, entre informatique et numérique. Et il me semble qu'il est important d'essayer de préciser à la fois à quel moment et peut-être pour quelle raison, avec un regard d'historien, si je me permets de le faire pendant quelques secondes, cette évolution entre informatique et numérique. Quand même, il faut se rappeler que l'informatique est une science assez particulière qui a commencé comme une branche des mathématiques et qui s'est assez rapidement autonomisée et qui après est devenue quelque chose qui est assez rare dans les grandes sciences, une grande industrie. À ma connaissance, il n'existe que la chimie, dans les sciences classiques, qui est également une industrie, et peut-être aujourd'hui la biologie, mais la biologie dans un sens qui est très proche et très associé et lié à l'informatique. Mais l'informatique a aussi une particularité qui n'est pas comme les autres, c'est-à-dire c'est une science qui est devenue une industrie et qui est aussi devenue une culture. Et c'est là où on passe, à mon sens, de l'informatique vers le numérique. C'est cette évolution et cette mutation. Et là, effectivement, puisqu'on est ici dans un monde francophone, pour illustrer cette évolution, on peut utiliser la très belle formule qu'on connaît tous de Pascal, entre l'esprit géométrique et l'esprit de finesse. L'informatique serait l'esprit technicien, qui serait l'esprit de géométrie. Et une fois qu'elle passe dans l'usage populaire, mais dans le sens fort du terme, elle devient à la fois une culture et le numérique. Et il me semble qu'il est très important de retenir cette évolution parce qu'on voit très souvent le glissement du vocabulaire terminologique qui, d'une manière ou d'une autre, exprime notre malaise avec ce que le numérique implique dans le milieu et dans manière de penser à la culture. Deuxième élément qui m'intéresse dans cette évolution, et c'est, ça va toucher un petit peu à l'espace pédagogique, si j'ose dire, c'est qu'on a souvent, et peut-être un peu trop, à mon sens, exagéré l'importance ou l'influence du numérique comme de l'informatique sur nos rapports avec le temps et la temporalité. On a souvent parlé de l'accélération, de l'immédiat, de la vitesse, de la rapidité, et pour certains, ça représentait un manque de temps de la réflexion. Et c'est peut-être vrai, à mon sens, il ne faut pas se laisser facilement piéger par un discours de la peur quand il s'agit des techniques. Mais néanmoins, il me semble que ce qui est peut-être plus déterminant et plus puissant dans le numérique, dans sa dimension culturelle, c'est la manière dont il modifie notre rapport avec l'espace et la spatialité. Effectivement, on le voit tout de suite aujourd'hui, parce que ce qui caractérise l'homme, à part la langue, le langage, c'est la manière dont on dessine, façonne et habite l'espace, l'habitus. On a des seuils, on a des lieux de culte, on avait des lieux du privé, on a des espaces pédagogiques, on a des espaces qui sont consacrés aux religieux, et ainsi de suite. Or, il se trouve que le numérique a modifié de manière radicale ce rapport avec l'espace et la spatialité. Pourquoi et comment ? Parce qu'il a mis en place quelque chose d'hybride, où on avait à un certain temps comme une distinction relativement nette et simple à saisir entre le virtuel, on peut le définir comme on veut, et le concret ou le vécu. Mais aujourd'hui, on le voit très bien, on le sent avec nos smartphones, avec tous les gadgets qu'on a, que cet espace, ces frontières sont tombées. On est sans cesse en train de vivre dans cette hybridation généralisée qui, effectivement, du point de vue de la pédagogie et des compétences, suscite à la fois des défis et nous incite à se poser plusieurs questions. Comment concevoir une forme d'interactivité dans cette hybridité pour mieux transmettre et surtout pour mieux produire le savoir et la connaissance. Deuxième question qui est importante, comment prendre en compte quelque chose qu'on a oublié et qui reste avec nous, et c'est une forme qui est très difficile, à mon avis, qu'il est très difficile de surmonter dans la technique, elle a une dimension universelle globale, et pourtant, avec cette hybridation, on est en train de témoigner un retour du local, dans tous les sens du local, que ce soit le local linguistique, la diversité culturelle. On a vu qu'il y a quand même des questions qui se posent toujours avec cette dimension-là. Et cette hybridité nous invite à penser quelque chose qui, en même temps, doit être soumis à certains aspects des plateformes qui sont quand même relativement peu nombreuses. Quand on regarde de près, elles sont construites selon des modèles assez classiques, en gros. Elles introduisent et elles naturalisent le geste éditorial qu'on connaît d'autres cultures et d'autres industries et qui sont mis au service à la fois de la pédagogie ou bien autre chose. Et à mon avis, il faut interroger, je vais essayer de donner quelques idées sur cette question-là. Troisième élément, et c'est, je crois, quelque chose qui manque peut-être dans notre réflexion, parce que ce n'est pas quelque chose de facile, et qui touche aussi à la question qui était mon point de départ entre informatique et numérique, c'est le statut du code numérique. Parce que quand même, on ne peut pas dissocier l'outil, puisqu'on parle d'outil, du code qui le produit. Et le code, à mon sens, il ne faut pas le réduire à quelque chose de normatif, à une simple collection d'instructions qui sont exécutées par la machine. Il me semble qu'aujourd'hui, parce que le code a modifié le contexte dans le sens le plus fort et le plus large du terme, le code est un être culturel. Il n'est pas seulement normatif, il n'est pas strictement algorithmique, il est quelque chose comme un discours, il est soumis à l'annotation et aux commentaires, à l'échange, à la fragmentation, et comme on voit avec tous les logiciels libres et ouverts, à la reformulation et la reconfiguration. Et il me semble que c'est là, dans la formation pédagogique, il faut introduire une pratique du code qui ne le mystifie point, mais qui l'intègre d'une manière absolument essentielle, parce que c'est la langue de notre culture émergente, et on ne peut pas la dissocier de notre formation pédagogique, que ce soit pour les formateurs, les enseignants ou bien pour les étudiants. Effectivement, si on évoque les hackers, on voit très bien qu'ils ne dévient pas, mais ce qu'ils font, ils utilisent la ruse, la métisse, comme disaient les Grecs, c'est-à-dire ils font faire quelque chose au code qu'ils n'étaient pas censés faire. Et c'est ça, on voit un sens du mot de l'innovation pour nous. Et ça doit nécessairement passer par une certaine familiarité avec le code, tel qu'il est mis en place aujourd'hui. Et pour peut-être continuer sur cette dimension, si vous voulez, du code, je vais évoquer assez rapidement une thèse qui est celle de Claude Lévi-Strauss, parce que parfois elle est utile pour mettre dans un contexte peut-être plus accessible, pour essayer de donner une définition du numérique comme culture. Je ne vais pas entrer évidemment dans les débats byzantins, ce que c'est qu'une culture, on connaît ça depuis très longtemps, je ne sais pas si c'est tellement utile, mais par contre je vais utiliser une petite citation ou un fragment de citation de Nietzsche qui dit « La culture, c'est ce qui modifie notre regard sur nous-mêmes et notre héritage ». Et il me semble, si on prend cette définition, il n'y a aucun doute que le numérique modifie à la fois notre regard sur notre identité. Il suffit de penser à l'identité numérique, qui est ni généalogique ni territoriale, pour ne pas aller plus loin. Et surtout, il modifie notre regard et nos rapports avec notre patrimoine et les archives qu'on a héritées, parce qu'ils sont en train d'être numérisés, ils sont en train d'être convertis, et du coup, ils sont soumis aux interfaces du numérique qui modifient de manière assez radicale la manière dont on les interprète et qui nous distingue de ce qu'on avait fait avant. Alors avec cette dimension de la culturelle, j'aimerais bien rappeler la thèse de Lévi-Strauss, qui a contesté à mon avis, mais qui est intéressante. C'était dans une note qui a été rédigée pour l'UNESCO en 56, je me rappelle bien, avec un titre comme quelque chose, l'apport des sciences humaines et sociales à la civilisation technique. Et il explique l'importance des mathématiques pour la linguistique, pour toutes les sciences sociales qu'on sait qui étaient les siennes. Mais à la fin, il propose un schéma assez intéressant. Il note que l'Occident, selon lui, a été marqué par trois formes d'humanisme. Le premier, c'est l'humanisme de la Renaissance, qu'il appelle, on le comprend, un humanisme aristocratique. Le second, c'est celui du XIXe siècle, qu'il identifie comme un humanisme exotique et bourgeois. Et finalement, le sien, qu'il nomme humanisme démocratique. Pourquoi ? Parce qu'il est l'humanisme de l'ethnologue et de l'anthropologue, et surtout parce qu'il prend en compte tout ce qui a été exclu par les deux premiers humanismes, que ce soit l'oralité, le mythe, tout ce qui échappe à la raison est repris et intériorisé dans le discours analytique démocratique. Alors effectivement, on voit une forme d'évolution politique, aristocratie, bourgeoisie jusqu'à la démocratie. On voit également un rapport très très distinct avec la nature du document. Effectivement, si on regarde ce que c'est que l'humanisme de la Renaissance, il est évident que c'était la découverte de la méthode critique et les rapports d'analyse interne philologique qui ont donné lieu à ce qu'on appelle cette Renaissance. Avec l'humanisme du XIXe siècle, c'est effectivement la naissance de la méthode comparative. Et la méthode comparative est très importante, effectivement, parce qu'elle a donné naissance aux sciences sociales, qui sont toujours avec nous aujourd'hui. Et effectivement, le dernier, qui est celui de Lévi-Strauss, c'est démocratique dans le sens qu'il y a un retour au-delà de la raison. Il me semble qu'avec le numérique, on est peut-être intéressé à proposer un quatrième humanisme, qui serait une forme d'humanisme numérique, parce qu'il prend en compte effectivement cette évolution dans nos rapports avec le document dans le sens le plus large et le plus fort dans notre culture. Parce qu'effectivement, on voit très bien avec tous les débats suscités par la numérisation, au-delà des coûts dont on parle, il y a quelque chose de fondamental qui est mis en place. Et effectivement, si on parle de cette mise en perspective avec le quatrième humanisme, ça touche également à la manière dont on transmet cet héritage. Et c'est l'un des enjeux principaux de la forme pédagogique. Une seconde dimension qui est effectivement aussi associée à cette quatrième humanisme, si j'ose dire, et qui touche à l'espace pédagogique et surtout à la dimension spatiale. Et je vais reprendre un petit texte, c'était un court texte, mais très important, de Marcel Mauss, qui était très important pour Claude Lévi-Strauss, et qui s'intitule « Les techniques du corps ». Je vais rappeler juste une petite anecdote parce qu'il est très éloquent. Mauss était malade dans un hôpital à New York, et dans son lit, il observe les infirmières new-yorkaises qui marchaient, qui défilaient dans les couloirs. Il est frappé par le fait qu'il reconnaissait leur manière de marcher. Il s'est dit, comment se fait-il que moi, depuis très peu de temps à New York, je reconnaisse leur manière de marcher. Et puis après, il dit, elles marchent comme les Françaises. Puis après, il dit, c'est pas normal que les New-Yorkaises marchent comme les Françaises. Et de là, il fait un saut assez intéressant. Il dit, c'est les Françaises qui marchent comme les New-Yorkaises, parce qu'ils avaient regardé des films américains. Et du coup, il dit que la technique qui, à l'époque, était le cinéma, a modifié la position et la posture du corps dans une culture et une civilisation. Et de là, il fait un saut beaucoup plus important, qui est peut-être pertinent pour nous, et il dit, il existe un lien déterminant entre le statut et la position du corps dans une civilisation et la nature des objets culturels produits par cette civilisation. Pour illustrer cette idée, il nous compare assez rapidement, mais on voit tout de suite l'intérêt, une culture avec la chaise, une culture sans la chaise, vous l'avez deviné, c'est la Chine et l'Inde. Et on voit tout de suite qu'il y a un écart assez important entre les deux. Alors ma thèse à moi, et c'est une thèse qui touche à l'espace pédagogique, c'est que la culture numérique a commencé comme une culture de la chaise. On était obligé d'être devant un écran, dans un bureau, sur une chaise. Aujourd'hui, on est de plus en plus hybride et mobile. Et dans cette mutation, c'est la nature même des objets culturels qu'on est en train ou bien de consulter ou de créer qui sont en mutation. Et c'est là où il faut penser à la fois l'espace pédagogique dans cette hybridation à la fois spatiale et qualitative qui nécessite une réflexion sur la nature des compétences requises qui vont au-delà d'une simple considération à la fois des outils, de leur maîtrise et de la manière de les faire passer dans un espace qui est celui de la classe ou un équivalent. Parce qu'effectivement, quand on pense à cette modification qui est liée à la mobilité, on voit aussi qu'elle touche à la nature de l'écrit. Et une des conditions essentielles de notre évaluation du travail pédagogique, c'est dans le travail qui est produit par l'écrit, par une forme de l'écrit. Que cet écrit soit sur un format numérique relativement réduit, qu'on peut accumuler, ou bien dans un format classique qui nous est beaucoup plus familier. Néanmoins, effectivement, c'est la nature même de l'écrit qui est modifiée. D'où on voit parfois le malaise qui est suscité par les formes de l'écrit qui sont associées avec la mobilité. Les contraintes des SMS et des textos, de Twitter, qui modifient la nature même de la langue, telle qu'on l'a connue, nous, nos générations, et qui, en même temps, mettent en place un nouveau vocabulaire qui est en train de redessiner notre paysage culturel. Et il me semble, là, il y a quand même, on voit que la culture numérique introduit de nouveaux repères et surtout nous invite à penser et imaginer de nouveaux critères, que ce soit pour évaluer ou bien pour valoriser. Parce qu'effectivement, elle met en place de nouvelles valeurs. Je vais juste donner un exemple pour illustrer les nouvelles valorisations, c'est la géolocalisation. Elle a été connue depuis un certain temps, mais seulement une fois qu'elle a été associée à la mobilité, qu'elle a créé de nouvelles valeurs. On voit tout de suite, ce sont des valeurs linguistiques. Vous arrivez dans un pays, le moteur de recherche va insister à vous donner vos résultats dans cette langue. Et il faut insister à plusieurs reprises si vous voulez rester dans votre langue maternelle. Et on peut aller évidemment au-delà de là, parce que la réalité augmentée, telle qu'on la connaît aujourd'hui, ne peut pas fonctionner sans la géolocalisation. Elle implique une forme d'association entre une localisation et la production des données qui sont associées à cet espace tel qu'il est connu par le système numérique. Une deuxième conséquence, et c'est là, je crois, on va retrouver certains des débats, mais de mon point de vue peut-être un peu indirect, c'est le rôle déterminant des interfaces. On a souvent tendance à penser à la fonctionnalité en oubliant les interfaces. Et comme on dit dans l'industrie numérique, celui qui contrôle les interfaces domine à la fois le marché et surtout la conception culturelle. Il suffit pour penser pourquoi on est toujours prisonnier de la métaphore du bureau. Ça a été un choix et ce n'est pas nécessaire. On peut imaginer d'autres métaphores et figures pour organiser notre existence numérique sur nos écrans, mais c'est la puissance figurative de cette figure qui structure nos rapports. Et il me semble, avec les interfaces, on est en train de vivre encore une mutation. Pendant longtemps, les interfaces donnaient accès à une fonctionnalité très très spécifique. L'exemple le plus commun qu'on peut utiliser, c'est un distributeur de billets. On allait, on savait très bien ce qu'on voulait faire, on vérifiait la solde, on retirait de l'argent et on sortait. Mais aujourd'hui, avec l'évolution au-delà du web 2.0, on va parler dans un instant de la sociabilité, on est en train de passer vers le fait que c'est le monde lui-même qui est en train de devenir interface vers le numérique et son contenu, et ses contenus. Et cette inversion est tout à fait énorme et très très radicale. Il suffit de regarder ce que vous faites avec vos smartphones. Vous allez chercher, vous allez toujours retomber dans presque une mise en abîme qui toujours va vous renvoyer de plus en plus vers le numérique. Et c'est là où on voit la vraie transformation à la fois spatiale et temporelle qui touche évidemment à l'identité, nos rapports avec le savoir, avec le corps des connaissances qui nous est disponible, mais également avec la nature même de cette culture émergente ou civilisation qu'on peut nommer comme civilisation numérique. Et finalement, pour dire quelques mots, il me reste encore 10 minutes, sur la sociabilité comme un lieu d'enseignement, si vous voulez, ou possible d'interaction et de communication. Moi, je me suis interrogé depuis un certain temps pourquoi on a constitué la sociabilité numérique sur le modèle de l'amitié. C'est une question banale, mais quand même, si on se la pose, il y a des choses intéressantes. Pourquoi, par exemple, si on est anthropologue ou ethnologue, on dit qu'il vaut mieux utiliser les liens de parenté? Parce que là, on va avoir des structures établies, on peut avoir des modèles qu'on peut comparer, mais non, pas du tout. Et c'est là où on découvre aussi la fonction à la fois de rupture et de continuité qui sont déterminantes de la culture numérique. Je vais donner 3 exemples pour illustrer pourquoi la sociabilité numérique, à mon sens, s'est formée sur le modèle de l'amitié. Si on reprend le texte d'Aristote sur l'amitié, hein, dans l'Éthique à Nicomaque, le chapitre 7, il nous dit tout simplement, mais il suffit de lire les deux premières pages, pas à lire tout le traité, que sans l'amitié, il n'y a pas d'espace politique dans la cité. C'est-à-dire que pour toute forme de participation politique libre, c'est la relation d'amitié qui est le fondement d'une telle participation. Alors du coup, on peut voir qu'il faut dépasser les liens de sang pour avoir des formes de liens affectifs, de partage de soi, qui sont également de formes de partage qui se traduisent par des gestes politiques et qui forment la communauté d'une manière très, très solide. Et c'est là où on voit, au-delà de d'une lecture populiste du réseau social, la puissance et la densité de ce qui est en train de se mettre en place. Un second texte, qui est même moins connu à mon avis, celui de Cicéron, qui a consacré un traité à l'amitié, et d'habitude Cicéron, on le dit souvent, il répète ce que les autres ont dit avec une petite critique aussi là, mais à mon sens il dit quelque chose de plus intéressant, et à la fin du livre il dit quelque chose de évident, mais il fallait le dire, il dit que l'amitié consiste à faire montrer quelque chose qui n'est pas de l'ordre du visible. C'est-à-dire, vous allez partager votre intimité, votre intériorité, en l'offrant à quelqu'un d'autre. Et c'est ce partage qui est quand même quelque chose qui reste de l'ordre de l'énigme, qui est constitutif de la relation. Si on regarde dans les réseaux sociaux aujourd'hui, on voit qu'il y a des techniques de la visibilité qui sont associées au statut de l'image. Il suffit de voir si vous allez créer un compte sur Facebook, par exemple, ou LinkedIn, pour ne pas rester avec un seul, vous avez déjà un portrait, parce que vous ne pouvez pas exister sans représentation figurative. Et là, on va retrouver en effet les fonctions classiques de l'image, comme icône, incarnation d'une identité, comme portrait, représentation de cette identité, et surtout comme emblème, c'est-à-dire une forme dynamique d'échange entre un état et un discours qui modifie l'apparence de cet état. Et c'est ça, là, on voit, par exemple, l'importance de qu'est-ce que vous faites, quelle est votre activité, la question qui est posée pour générer le mur sur quelque chose comme les réseaux sociaux, parce qu'elle est ancrée quand même dans une pratique assez antique qui est transmise de manière implicite et qui est presque constitutive de la manière dont on fait société. Et finalement, il y a le chancelier Bacon qui a fait un tout petit traité, un petit essai sur l'amitié, où il explique que l'amitié a toujours été un calcul. Alors évidemment, aujourd'hui, l'une des plus grandes critiques qu'on adresse aux réseaux sociaux, on ne peut pas avoir 120 000 amis, on peut avoir 35 000, même 25, c'est déjà trop pour quelques-uns. Et là, on voit, il nous dit, l'adage, il est très connu, on le connaît tous par cœur, si on a un vrai ami, on double notre bonheur et on divise par deux notre malheur. Et on voit en effet que ça a toujours été une forme de calcul qui s'est traduite par une évaluation de notre relation. Et le réseau social ne fait que généraliser et naturaliser, mais la différence, et elle est importante, c'est l'échelle, et surtout le degré de visibilité de ce partage qui est constitutif, si on veut, de l'amitié. Et du coup, on voit, à mon avis, un regard à la fois historique qui permet peut-être d'après de mieux saisir certaines de ces dimension assez spécifique de la culture numérique. Pour terminer et pour conclure, je vais juste parler de quelque chose que j'étais frappé, puisqu'on a eu un discours de scientifique de la neuroscience sur la mémoire, sur les moteurs du cerveau et la manière dont on apprend, ainsi de suite. Et moi, je suis frappé par quelque chose, et c'est là où il y a un danger, à mon avis, dans l'informatique comme le numérique, c'est la dimension de l'oubli. C'est-à-dire, je ne parle pas du droit à l'oubli tel qu'on le discute aujourd'hui. C'est-à-dire, on doit avoir le droit à retirer certains textes, certaines formes d'intervention dans un espace sociable, visible et archivé par une plateforme. Non, non. Je parle du fait qu'il est impossible pour la technique de penser l'oubli. L'oubli n'est pensé que comme une faille ou une perte. Et ce qui distingue finalement l'humain, c'est exactement l'oubli. On apprend, on innove, on évolue en oubliant. Mais on a le pouvoir de ne pas oublier également, de revenir vers ce qu'on a choisi ou opter d'oublier. Et là, on voit quand même une différence tout à fait importante, et on voit effectivement également la manière dont le numérique modifie nos représentations du patrimoine et des archives. Je vous donne un exemple qui nous est familier. On a évoqué le grand empreinte pour la numérisation. On est tous dans une course dans la numérisation au plus grand chiffre. Et c'est une inversion de notre rôle avec la formation du patrimoine. Le patrimoine a toujours été ce qui a survécu, et très rarement ce qui a été sélectionné, qui a été le résultat d'un tri spécifique, d'un choix qu'il soit politique, éthique ou philosophique, très très rarement, c'est vraiment quelque chose qui a survécu, qui a été transmis. Aujourd'hui, on est en train de redéfinir la manière dont on dessine et imagine et crée notre patrimoine. Pourquoi ? Parce que c'est sous l'effet d'une technique qui ne peut pas penser l'oubli que comme une perte. Et du coup, on est soumis à cette contrainte qui est interne à la technique pour dire qu'il faut tout archiver. Alors, on sait très bien qu'on ne peut pas tout archiver, et ainsi de suite. Et il me semble qu'il y a quelque chose auquel il faut réfléchir, parce que c'est une question, comme disait Pascal, pour rester avec lui, politique. Parce que qui va décider de quoi ? C'est une question d'autorité. C'est tout simple. Elle est à la fois éthique et politique. Elle n'est pas seulement économique. Effectivement, la dimension économique peut jouer, mais ce n'est pas du tout la seule. Et pour conclure, et vraiment conclure, je vais vous lire une petite citation. Si je la retrouve. Pardon ? Oui, je sais, mais pas pour moi quand je suis en train de... Voilà, j'ai trouvé, malgré tout. Elle date de 1924. Elle est tirée d'un texte qui s'intitule « Introduction au discours sur le peu de réalité ». C'est par André Breton. Vous allez voir pourquoi je cite. « Sans fil, voici une locution qui a pris place trop récemment dans notre vocabulaire. Une locution dont la fortune a été trop rapide pour qu'il n'y passe pas beaucoup du rêve de notre époque. » Et puis il continue, c'est assez remarquable, hein. Télégraphie sans fil, téléphonie sans fil, imagination sans fil. A-t-on dit, l'induction est facile, mais selon moi, elle est permise. Fin de citation. Et il me semble que c'est dans cette promesse poétique, quand même, qu'il nous faut imaginer à la fois une nouvelle littératie et aussi une nouvelle poétique de cette culture du numérique. Je vous remercie.
Une chose que je ne vais pas faire, c'est que je ne pense pas que je vais oublier ce que Milad vient de dire et qui m'a beaucoup impressionné à la fois par sa clarté, son intelligence et son éclairage culturel qui remonte très loin et qui va devant. Alors, je pense que vous avez probablement des questions à lui poser. On a quelques minutes. On a la chance d'avoir Milad. N'hésitez pas. Voilà. Khadija Dib. Allez, dis-nous, ma chérie.
C'est pas directement lié à ces deux journées que j'ai trouvées très, très intéressantes et je remercie tous les organisateurs. C'est une question plutôt d'ordre plutôt privé. Est-ce que vous... Enfin, j'aimerais bien vous écouter si vous faites des conférences ailleurs ou dans des universités ou des choses comme
ah
ça.
Voilà, parce c'est, que un, j'ai c'est un rendez-vous qu'elle veut.
J'ai été très intéressée, je suis, par ce que vous avez enfin, dit.
Écoutez, depuis septembre, je suis à l'Université Laval à Québec, mais je suis assez souvent, fréquemment à Paris, où j'interviens assez régulièrement, disons.
Merci.
En tout cas, je crois, la semaine prochaine, il va y avoir une émission sur France Culture consacrée sur Steve Jobs, mais je ne sais plus à quelle heure elle va passer, mais si ça vous intéresse.
Ouais. Ton dernier livre que tu as publié.
Ah oui, il y a un livre qui vient de sortir qui s'intitule « Pour un humanisme numérique » aux éditions du Seuil.
Un humanisme numérique. Vous voyez, ça, on continue dans cette piste. D'autres questions où ils sont épuisés, complètement émerveillés par ce qu'ils ont entendu. Et puis voilà, ils sont dans, comme on nous l'a dit ce matin, dans l'inhibition.
Par le switch, oui.
Par le switch. Et donc ils vont... Ah voilà, peut-être ma secrétaire générale, Madame Thibord.
Oui, merci. J'aurais voulu avoir quelques éléments de votre réflexion sur qu'est-ce qui a séduit pendant tout notre séminaire. On a entendu la propension naturelle des jeunes sur toutes ces technologies. Et qu'est-ce qui, de votre point de vue, a séduit cette jeunesse peut-être par défaut ou par opposition à ce qui a fait notre société jusqu'à maintenant.
Je ne suis pas sûr que c'est par opposition. À mon avis, il y a quelque chose qui va de l'ordre à la fois de l'esthétique, qui joue énormément dans le succès, si on veut. Mais à mon sens, moi je crois que c'est plutôt dans la dimension du bidouillage, d'une forme de liberté qui est introduite, qui à la fois donne une affirmation d'une autonomie et en même temps des formes de résistance, qui créent des espaces de résistance qui sont assez flexibles et qui permettent à la jeunesse, quand on était adolescent nous-mêmes, de se distinguer de nos parents, des gens qui sont plus âgés. Et là, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là qui joue énormément dans l'adoption, si on veut.
Voilà. Mais il nous reste à
merci.
À vous remercier, à te remercier. Merci.